Radio Okapi. Grande interview.
Les relations belgo-congolaises ont défrayé la chronique ces derniers temps. Pour en parler et aborder d'autres sujets d'actualité, Grande Interview reçoit Maître Guillaume Mandjolo, diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale, écrivain essayiste en philosophie politique. Il est également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Maître Guillaume Mandjolo, comment allez-vous?
Ça va.
Vous le savez, Bruxelles avait décidé en janvier dernier de suspendre sa coopération bilatérale avec la RDC et avait annoncé la réaffectation de son aide financière aux ONG locales œuvrant pour le développement de la RDC, évoquant le principe de réciprocité. Kinshasa a à son tour ordonné la cessation des activités de l'agence belge de développement Enabel, ex-CTB, la fermeture de la maison Schengen, la fermeture de son consulat à Anvers, la réduction des vols de la compagnie Bruxelles Airlines à Kinshasa. Maître Mandjolo, comment analysez-vous cette situation?
C'est un peu normal lorsque on est face à un partenaire qui a toujours une position particulière. C'est depuis la nuit des temps cette sorte d'impérium qu'on veut avoir sur la RDC. Le monopole de l'autorité sur la RDC pose un problème. Il n'y a pas une sorte d'équilibre entre partenaires. Il n'y a pas de respect. Il y a une sorte de comportement pour tout le temps mettre l'autre dans l'indignité. Et ce n'est pas acceptable. On a vécu ça depuis la nuit des temps, depuis au fait que le polder de couvercle qui avait l'espace, qui est par la suite devenu l'État indépendant du Congo, depuis cette période-là, il y a une sorte comme ça de mépris permanent sur ce que nous sommes. Ça a commencé par, ce que vous savez tous, les grands génocides, un des plus cruels dans le sens où, lorsque vous opérez cette démarche de dénigrement de l'autre, encore faut-il le considérer comme l'autre. Or, la Belgique, et en l'espèce ici, le pôle 2, a considéré que nous n'étions pas des humains à part entière. C'est fondant notamment sur la controverse de Valladolid, qui disposait que les Noirs n'avaient pas d'âme, et beaucoup plus tard, avec tous les textes qui ont présidé à la déconsidération du Noir, les codes noirs, Colbert, Louis XIV, l'inégalité des races humaines d'Arthur de Gobineau. Et finalement, on a énormément d'informations qui nous sont données par Arthur Conan Doyle dans son texte « Les crimes du Congo ». Où Stanley dit avec précision qu'effectivement, en arrivant ici, en parcourant la partie du nord de la RDC, notamment la cité d'Irebou, il y a découvert une vie intense, extraordinaire, où il y avait le commerce, la diplomatie, la science et une connaissance parfaite de son environnement. Et il a même appelé Irebou la populeuse Venise du Congo. En fait, on reprend quand on regarde les statistiques, il aurait trouvé plus ou moins 100 000 personnes qui vivaient à Irebou. On a du 183. C'est dans les textes d'Arthur Conan Doyle qui reprend cette correspondance-là. Et en 1903, on s'est retrouvé avec 50 personnes. De 100 000 à 50 personnes. Alors, tous ces crimes connus maintenant aujourd'hui par tous, d'ailleurs, me semble-t-il que les pays comme les Pays-Bas, a été à l'avant-garde des relevés qu'effectivement il y avait une sorte de supercherie dans l'approche de Léopold II qui a fait qu'il a dû faire des choses inacceptables sur la RDC. Toutes ces choses, on doit les passer en revue, les évaluer. Ça fait que la Belgique a été construite par les fruits tirés de la RDC. Sinon, elle n'existait pas en tant qu'État aujourd'hui, avec toute cette structuration, tous les palais royaux, palais de la justice, toute l'organisation matérielle, et tout ça a été fait sur base de la RDC.
Et donc, pour vous, les relations coloniales entre la RDC et la Belgique n'ont pas évolué?
Non, ça n'a pas évolué, c'est-à-dire que vous regardez que non seulement cette période qui est la période la plus criminelle du temps humain, a été suivie par une colonisation assez dure, très très dure. Et que finalement, ça a continué de cette façon-là. À peine étions-nous dans le processus d'indépendance, on a obtenu cette indépendance, que Lumumba gagne ses élections. Il a pour lui tout seul MNC avec plus ou moins 41 sièges. Avec les autres partis, il forme la majorité, mais on ne lui reconnaît pas les droits de pouvoir gérer le pays. D'ailleurs, on les tue. Quand on les tue, ce qui est abominable, c'est quoi? Parce que ça passe aujourd'hui sur tous les écrans de la planète. On explique qu'on a tué Lumumba, comment on l'a découpé. Et il y a un Belge qui se pavane à dire « j'ai encore gardé sa dent ». Et ça passe tout naturellement. C'est-à-dire que c'est cette déconsidération-là. Bon, finalement, ils installent Mobutu, qu'ils défenestrent beaucoup plus tard. Donc, ils ont un problème avec chaque gouvernement congolais. Ça pose un problème, c'est-à-dire que, dès le départ, l'idée qui était la leur de nous soumettre en tant que sous-humains, ne faisant pas partie du champ humain, perdure à aujourd'hui. Il y a comme ça des apologistes de Léopold II qui continue à faire perdurer cette idée-là.
Mais dans les années 90, Maître Mandjolo, on a parlé du contentieux belgo-zaïrois qui avait été remis sur la table. Visiblement, ce dossier n'a jamais été classé.
Mais il y a une faiblesse dans la démarche des autorités congolaises depuis la nuit des temps qui doit s'arrêter. On doit s'arrêter à pouvoir considérer qu'il suffit qu'un peu de sourire, un petit carnet de chèque a été signé pour orienter une aide d'une manière ou d'une autre, tout ça suffira à pouvoir effacer tout. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas effacer les mêmes poupées. Nous avons besoin d'avoir un mémorial important au niveau de la République, ici à Kinshasa et un peu partout avec des succursales au niveau de toutes les provinces, que les gens viennent s'incliner pour voir ce qui s'est passé. Les images sont là, on a les images avec tout ce qui s'est passé. Prenez l'exemple de l'histoire de l'attentat de l'avion sur Lockerbie. On a estimé que cet attentat-là devait coûter à la Libye plus ou moins 10 millions de dollars par personne décédée. Alors, si on doit transposer ça à notre échelle, nous disons voilà, c'est que la Belgique a ponctionné en RDC, y compris les morts et tout ça, donc toute cette tuerie macabre solliciterait qu'on puisse y réfléchir en termes d'indemnisation, des pénalités, disons plus ou moins 10 à 20 millions de dollars, et puis avec des pénalités sur le temps.
Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ces analystes qui pensent que les mesures prises par le gouvernement congolais semblent plutôt être à l'avantage des gouvernants et des pays voisins plutôt que du peuple congolais? Par exemple, quand on ferme le consulat d'Anvers, sont les Congolais qui sont préjudiciés. Lorsqu'on ferme la maison Schengen, c'est encore des Congolais. Lorsqu'on ferme le consulat à Goma, les Congolais sont obligés d'aller chercher leur visa au Rwanda. Est-ce que ce n'est pas finalement le peuple congolais qui est le plus grand perdant?
Non, il faut archi faux. Vous avez souligné que j'ai fait 10 ans de diplomatie, je sais comment ça fonctionne. Il faut archi faux.
Comment ça?
C'est une façon d'attirer l'attention sur un objectif qui n'a rien à voir avec la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est le cobalt. Tout ça, ce sont des faux fouilles. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, le fait qu'on puisse fermer un consulat ou un autre, ça ne change pas grand-chose. C'est pas grand-chose du tout. Les choses se passent même à distance. Quelqu'un qui est en mesure de partir en Europe est en mesure de pouvoir prendre son visa à Kinshasa. Donc c'est opérationnel, c'est pas un problème. La maison Schengen déjà pose problème. Souvenez-vous qu'ici à Kinshasa, les Congolais ont défilé pour qu'on ferme cette maison. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas très bien quelle autorité de droit divin on donnera à la Belgique pour faire en sorte que si un Congolais a envie de partir au Portugal, qu'il demande l'autorisation à la Belgique. Il y a une faiblesse dans cette démarche-là. On a trop favorisé la Belgique sur un certain nombre d'aspects, notamment dans les échanges diplomatiques, et qui ne sont plus à l'ordre du jour. On doit maintenant revoir chaque fois, chaque acte qu'on posera. Nous avons l'obligation, en ce qui concerne la RDC et les dirigeants actuels, de transmettre à la postérité ce qu'ils auraient fait par rapport à la structuration du pays, à la construction du pays, selon les propos de Lumumba. Qu'est-ce que vous avez fait du Congo qu'on vous a légué par les autres? Est-ce que vous avez tenu compte que dans ce pays, vous avez eu des mains coupées? Vous avez tenu compte que dans ce pays, on a eu une occupation très très dure? Vous avez tenu compte que Lumumba a été tué? Est-ce que vous avez tenu compte de tout ça avant chaque décision ou pas? Ce sont des choses sur lesquelles il faut absolument revenir. Bon, maintenant, vous me parlez de la maison Schengen. Mais c'est une hérésie. Faites les tours de l'Afrique, dites-moi combien de maisons Schengen il y a. Pourquoi seulement en RDC? La question est posée, pourquoi en RDC? Donc nous sommes un pays qui doit être donc soumis sans cesse, de manière permanente, à l'autorité belge. Y compris lorsqu'on doit prendre des dispositions entre États. C'est-à-dire que j'ai envie de partir en Grèce, pourquoi est-ce que mon dossier devrait être évalué par la Belgique? En vertu de quoi? Le problème, monsieur Alain Hirung, n'est pas là. Le problème est beaucoup plus crucial, plus profond. La Belgique a eu gratuitement, quasiment pendant des siècles, les matières premières de la RDC. A sous-traité ça auprès des multinationales depuis des années. À l'heure actuelle, on découvre qu'effectivement, la RDC, comme elle a été au centre du monde entre 40 et 45 avec son uranium qui a permis de pouvoir stopper la guerre avec la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, utilisée par les États-Unis, négociée par la Belgique pour leur propre compte parce que nous étions encore sous occupation. À l'heure actuelle, la situation est celle-ci. La transition énergétique dispose que dans les 15-20 ans à venir, l'essentiel du parc automobile de la planète fonctionnera avec les cobalt congolais. Plus ou moins 80% de la fourniture du cobalt qui va servir des carburants, parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec l'énergie fossile, qui sont les pétroles. Et les pétroles, on le trouve un peu partout. Mais bizarrement, avec cette transition énergétique, la RDC devient numéro un de la fourniture du cobalt. C'est comme si vous disiez que un seul pays au monde aujourd'hui fournirait du pétrole à toute la planète. Donc, maintenant, la
prédation... Et donc, la RDC est l'objet des convoitises.
Mais la RDC a toujours été l'objet de convoitises. Maintenant, c'est pire encore parce que ça va être à ciel ouvert. Les gens ne peuvent pas se passer. Vous voyez très bien que même dans le pays voisin, on commence à installer des usines, on commence à installer des entreprises, à la fois qui font la téléphonie, qui vont faire les ordinateurs, commencent à faire
les
voitures.
Sauf en RDC, bien sûr.
Sauf en RDC parce que on va faire la prédation en RDC et puis exporter, aller avec ça ailleurs.
Radio Okapi. Grande interview.
Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que Grande Interview reçoit Maître Guillaume Mangiolo, diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale, écrivain essayiste en philosophie politique. Il est également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti de la majorité présidentielle. Maître Guillaume Mangiolo.
Vous savez, il y a eu un reportage très intéressant de la RTBF en Belgique, les coltans du sang. Et on a tracé quasiment les parcours de ces coltans qui passent par la Belgique obligatoirement pour aller ailleurs. Alors, on dit dans l'espace Est, il y a des milices qui utilisent les enfants, qui violent, qui tuent pour pouvoir extraire ces produits-là. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, on ne parle pas des droits humains alors que ça passe par les entreprises belges avant d'être exporté vers la Suède, vers la Norvège, vers la Corée du Sud, vers le Japon et vers les États-Unis? L'essentiel d'appareils portables qu'on a entre les mains vient des matières premières RDC de la partie Est. On sait extrait dans quelles conditions. Donc, tout ça, on botte ça en touche.
Maître Mangiolo, nous allons poursuivre avec le cobalt, mais pour clore ce chapitre des relations entre la Belgique et la RDC, c'est quoi le dénouement? Parce que là, on a été dans une forme d'escalade et là, on est en crise. Pour vous, le dénouement passe par quoi?
Le premier élément qu'il faut rappeler, c'est que la dignité des uns des autres doit être respectée absolument. La parole donnée doit être respectée. Il s'avère simplement que j'ai participé à l'élaboration de la démarche consistant à pouvoir se rapprocher avec la Belgique entre 2008 et 2009, alors que nos relations étaient gelées depuis un certain temps. Le 24 janvier 2009, Mouzito Adolphe, Premier ministre de la RDC, Van Rompuy, Premier ministre de la Belgique, ont signé un document intitulé « Normalisation des relations entre la RDC et la Belgique ». Dans ce texte, il était coulé des communs accords deux principes majeurs. Le premier, la souveraineté à respecter de chaque État. Donc, si la Belgique n'a pas un gouvernement, ça ne nous regardait pas. Si les Wallons se battent avec les Flamands, ça ne nous regardait pas. Si la Belgique opère les choix d'un parti extrémiste à la tête de son pays, ça ne nous regardait pas. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec les NVA qui s'est associé avec les MR. Ça ne nous regardait pas.
Si la RDC viole les droits de l'homme, ça ne nous regarde pas.
Non, ce n'est pas ça. Je vais venir par la suite. Je viens d'expliquer ici un aspect important sur les droits humains, notamment les droits des enfants qui sont utilisés dans la partie Est, dont les produits passent par la Belgique. J'ai pas entendu la Belgique dire, voilà, il y a un problème des droits humains parce qu'ils sont bénéficiaires directs. Ça, vous n'en parlez pas. Mais simplement, il peut y avoir des couacs dans la gestion de la République. C'est une réalité. Est-ce qu'il y a des comportements désobligeants, notamment dans les chefs de certains agents de l'ordre en RDC? Oui ou non? Bien entendu. Deuxième principe, permettez, en cas de différend ou des reproches d'une partie à l'autre, le principe qui doit être observé, c'est la transmission d'informations, la discussion par voie diplomatique. Simplement, la Belgique n'a pas respecté ça.
Et donc, c'est des relations d'égal à égal.
On ne peut fonctionner que des relations d'égal à égal, qu'on respecte ce qu'on avait convenu, qu'on nous reproche. Je vous donne un exemple par rapport aux reproches que j'ai connus parce que j'étais aux affaires étrangères. L'histoire du Belge d'origine congolaise impliqué dans une tentative contre le chef de l'État, qui avait été arrêté, qui est encore aujourd'hui en prison. Ces messieurs-là ont demandé d'aller le voir en prison par la chancellerie belge et tout ça, ou bien, bon, voilà. Ils ont demandé, mais avec des mots très durs, on a répondu. Mais personne ne le sait, parce que c'était la voie diplomatique. Bon, maintenant, si vous voulez faire des communiqués tonitruants, de sorte à pouvoir humilier la RDC, parce que tout simplement, vous voulez attirer l'attention sur un problème différent, de sorte à ce que l'opération Cobalt soit dans le mouvement, parce que ce qu'il est cherché, c'est quoi? Ce qu'un ami, Freddy Moulumba, dit sans cesse, la balkanisation, moi je dis le morcellement de la RDC, permettrait à ce qu'on puisse plus facilement gérer ces matières premières.
Maître Mangiolo, une autre actualité qui concerne toujours les relations entre la RDC et la communauté internationale, c'est le président de la CENI, Corneille Nanga, qui a annoncé le mardi 13 février 2018 que sans utilisation de la machine à voter, il ne serait pas possible d'organiser les élections le 23 décembre 2018. Il répondait ainsi. aussi aux inquiétudes des États-Unis qui ont affirmé leur opposition à un système électronique de vote en RDC. Qu'en dites-vous? C'est toujours le cobalt.
Toujours le cobalt, malheureusement. Souvenez-vous des armes de destruction massive qu'on avait trouvées en Irak. C'était une fausseté absolue, c'était un mensonge absolu qui a connu qu'on puisse démolir l'Irak, qu'on puisse lui prendre son pétrole. Mais simplement, sur ces points précis, parce que à l'hystérie de la passion contemporaine qui est lâchée comme ça dans la rue, il faut y répondre avec des chiffres précis. Je vous donne juste les chiffres pour vous donner la perception de la situation. En 2006, pour les élections, me semblait-il, à l'époque, les chiffres sont là, la CEI à l'époque avait enrôlé plus ou moins 26 millions d'électeurs en 2006. Et pour ce faire, elle a eu l'assistance internationale avec 450 experts internationaux et elle a eu l'assistance logistique avec 118 avions disponibilisés, dont l'abbé Malumalu disposait à lui tout seul de deux avions pour se déplacer. Et en plus de ça, il y avait 500 millions de dollars déposés pour 26 millions d'enrôlés. En 2016, 2017, 2018, aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 45 à 47 millions d'électeurs sans compter la diaspora. Nous n'avons aucun soutien logistique de la part de la communauté internationale. Nous faisons sur fonds propres. Et en plus de ça, on n'a pas eu, au niveau notamment de la MONUSCO qui aide de temps en temps M. Nanga, on avait deux appareils dont un a fait un accident. Il reste un qui est brinque-ballant, qui n'est même pas opérationnel. Alors dites-moi, si on ne doit pas trouver des mécanismes permettant de pouvoir atténuer les coûts de ces élections, on fait comment? Nanga vous dit ceci. Techniquement, voilà ce qui se passe. Ces machines nous permettent de pouvoir comptabiliser plus vite, aller plus vite. On va faire les votes papier. Ce n'est pas les votes machines, c'est les votes papier. Maintenant, il faut les comptabiliser pour la compilation assez rapidement. Et voilà comment ça se fera. Il explique. Alors qu'on lui confronte les contraires sur cette technicité. Il s'agit plutôt de ça.
Et ce vote-là, Maître Mandiolo, il sera électronique, manuel ou semi-électronique?
Non, le vote est manuel. La comptabilité du vote peut être électronique à travers cette machine-là. Mais les votes est d'abord manuel. La confirmation et la compilation, c'est fait avec cette technologie-là, tout simplement. On peut contester ça. Je peux comprendre qu'on conteste. Mais qu'est-ce qu'on propose à la place et quels moyens on apporte à la place?
Il y a des députés qui estiment que ce n'est pas légal. La loi électorale ne les prévoit pas.
Mais ce qui est extraordinaire avec certains de nos représentants, c'est que c'est très facile de parler dans la rue. On leur a donné l'opportunité au niveau de l'Assemblée nationale d'émettre leurs avis, notamment un paquet d'amendements sur chaque situation. On n'a pas vu. La plupart de ces gens-là sont sortis de la salle. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire les choses pour par la suite aller dans la presse commencer à parler. Il aura fallu que dans la salle, ils fassent couler une série d'amendements, 2 000 à 3 000 amendements qui bloqueraient la machine de sorte à ce qu'on puisse évaluer chaque élément. Ça n'a pas été fait. C'est ça être député. C'est pas forcément aller chercher un micro pour pouvoir vilipender ce qu'on fait au niveau de la République. C'est aussi faire des propositions bloquées à travers les mécanismes que permet l'Assemblée nationale.
Maître Mandiolo, vous avez évoqué la question du cobalt. On se souvient qu'en début du mois de février, il y a eu un forum intéressant à Indaba, en Afrique du Sud. Il est dit que la RDC, à travers la mouture du code minier, voudrait faire passer la redevance de 2% à 10% sur les métaux stratégiques, dont bien sûr le cobalt. La taxe sur les super profits serait supérieure à 50%, ce qui veut dire que le cobalt coûtera plus cher sur le marché mondial. Et donc, pour vous, le cobalt reste l'enjeu principal.
Le cobalt reste l'enjeu principal. Je vous donne les chiffres, comme ça vous avez la perception exacte. Nous avons tous un portable et chaque année sort plus ou moins 7 milliards de portables sur la planète. Et les portables des très hauts niveaux sont autour des 1 000 à 1 500 dollars. Faites la multiplication, vous voyez. Et surtout, ce qui sort là, l'essentiel, 80% des composantes de ces portables viennent de la RDC, des matières premières de la RDC, qui sont extraites dans les conditions que vous savez. On a montré les enfants, les milices et tout ça. On a vu que une série de personnalités, notamment des organisations internationales qui sont en RDC, la MONUSCO a été citée, Oxfam, tout un tas de structures qui participent à ces commerces ici. Et la loi Dodd-Frank, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas? Celle qui veut qu'on parle de la traçabilité des matières premières au départ des zones de conflit. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas quand il s'agit de la RDC? Alors, partant de là, lorsque la RDC dit « ça n'est pas normal que ces produits qui viennent de la RDC bénéficient à toute la planète sauf à la RDC », les enfants RDC croulent dans la misère alors qu'ils ont un produit qui leur appartient et qui fait fonctionner le monde. En vertu de quoi? On verrait que l'espace de la péninsule arabique prolifère de beaucoup de richesses parce qu'ils ont leur pétrole. Nous avons le pétrole de demain qui aujourd'hui est déjà d'application dans les smartphones, dans les portables, dans tout un tas de choses. Et demain, ça sera les carburants qui sera dans les véhicules en termes de batteries. En vertu de quoi nous ne pouvons pas bénéficier de ce que la Providence nous a légué? En vertu de quoi? Nous avons une obligation vis-à-vis du passé, de nos ancêtres, de dire... Vous nous avez légué quelque chose, voilà comment on protège, comment on va passer les témoins à la génération future. Est-ce qu'on le fait? Le fait de pouvoir dire on modifie notre code minier pose un problème. Lorsque M. Trump arrive, il dit « America first ». Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a coupé toutes les conventions qui liaient les États-Unis où il fallait pas que, où les États-Unis ne profitaient pas suffisamment. En vertu de quoi la RDC ne peut pas dire ça par rapport à ses propres minerais? En vertu de quoi on doit absolument la faire partir? Ou la faire exploser au motif qu'elle soutiendra simplement à protéger son espace vital.
Maître Mandjolo, il nous reste moins de 5 minutes. Nous allons ramasser quelques sujets d'actualité où je vais vous demander des réponses très courtes. Les laïcs catholiques appellent à une autre marche le 25 février prochain. Est-ce que cette fois-ci, la majorité va faciliter l'organisation de cette manifestation? Est-ce que cette fois-ci, il n'y aura pas de morts? Comment vous réagissez?
J'ai réagi en disant les cobalt et encore les cobalt. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour pousser à ce qu'il y ait une intervention extérieure à la République qui vienne ici pour dire qu'effectivement on veut régler les différends entre fils congolais, il faut qu'il y ait un paquet de morts. Il faut beaucoup plus de morts. Une manifestation qui, par malheur, puisque c'est toujours un malheur, a un ou deux morts, ça ne suffit pas pour que cette communauté et multinationales qui sont derrière puissent faire la guerre à la RDC. Faire exposer la RDC. Il faut plus de morts. Vous voyez ce qui est recherché, c'est ça, malheureusement.
Et donc la police joue le jeu parce que c'est elle qui réprime dans le sang.
Non, je suis en train de dire, et je répète sans cesse sur les plateaux, je demande aux policiers congolais, aux forces de sécurité, de rester extrêmement prudents et professionnels. La vie de la République, la pérennité de la République est entre leurs mains. Évitez, tout ce que vous êtes là, c'est pour protéger, empêcher, mais pas pour taper et pas pour tuer, jamais. Parce que la vie de la République est entre vos mains. Au moment où on parle, il y a une série de jeunes gens, des jeunes Congolais, militaires, qui meurent au front tous les jours pour protéger cet espace. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Il y a une série de milices qui sont installées dans la partie Est depuis très longtemps, qu'on protège en permanence. Est-ce qu'on en parle? Ce sont les jeunes gens qui donnent leur vie pour la République. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Et ces jeunes gens protègent les espaces, au fait, qui sont concernés par les matières premières, qui sont extraites de manière tout à fait détournée, illégale, et qui sont amenés vers l'Europe et vers d'autres pays pour les smartphones notamment. Mais en ce qui concerne la RDC, pour son implosion définitive, il faut justifier ça à travers notamment un paquet de morts. Or, ceux qui sont en train de tenter de faire des manifestations, on ne comprend pas très bien pourquoi ils les font, dans la mesure où il a été établi par tous qu'on aura les élections en 2018, décembre. Et ce calendrier a été convenu. Vous avez entendu parler, Madame Nikki Haley. Nous espérons que vous tiendrez les élections à telle date. On ne discute plus du processus électoral en tant que tel. On commence à prélever quelques éléments, notamment les appareils qui serviront, c'est tout ça.
Et donc, pour vous, les laïcs catholiques sont manipulés?
Mais ils ne se rendent même pas compte. Vous savez, la plupart de ceux qui avaient été utilisés pour tuer les Congolais étaient Congolais pendant la période léopoldienne, sans qu'ils se rendent compte qu'ils rendaient un mauvais service à leur propre pays. Qu'on puisse ne pas être d'accord sur la gestion du pays, ça peut se comprendre. Mais est-ce que faut-il absolument pousser à ce qu'il y ait des morts dans la République pour satisfaire l'appétit d'autres personnes ou permettre à ce qu'on pousse une intrusion dans notre pays pour
échapper? Ces marches, Maître Mandjolo, sont pacifiques. Les laïcs catholiques n'ont que leur Bible, leur chapelet et des rameaux, et pas plus que ça.
C'est une vaste blague. Pas plus tard qu'il y a encore une semaine, on nous disait qu'il y avait 50-50. Souvenez-vous, un parti politique nous a dit que non, les catholiques donnaient l'espace et ce sont les militants qui intégraient le système pour pouvoir faire le travail qui est fait qu'on voit à la télévision. Ça a été dit. Donc finalement, vous voyez que cette manipulation dont j'ai parlé est effective, elle est factuelle, elle existe. Maintenant, la question fondamentale, lorsqu'on fait une révolte métaphysique, la question est pourquoi vous la faites? On nous dit, c'est pour que quoi? Il n'y a pas de réponse précise. Dites-moi un seul pays au niveau de la communauté internationale qui a dit que le calendrier n'est pas opérationnel. Tous sont unanimement d'accord pour dire que le calendrier est opérationnel. Ces marches servent à quoi exactement?
Nous allons terminer par le Kasaï central où deux morts sans vie, ceux d'un chef coutumier et sa femme, ont été découverts au courant de cette semaine dans la matinée près d'une rivière à une trentaine de kilomètres de Kananga. L'information a été confirmée par le bourgmestre de Kananga qui reconnaît comme auteur les miliciens de Kamuina Nsapu, Maître Mandjolo, après la conférence sur la paix et le développement dans la région du Kasaï. On pensait qu'on n'entendrait plus ce type de drame.
Mais c'est malheureux. C'est malheureux de voir qu'effectivement, cette milice continue à pouvoir œuvrer encore dans cet espace-là. Bon, il faut protéger la population. Voilà, maintenant, c'est un officiel qui a été tué. Puisqu'habituellement, on dit que bon, c'est fomenté par des politiques, par les services de sécurité, tout ça, qui font ce travail-là. Là, on découvre que c'était un officiel qui a été tué lui-même. Moi, j'ai eu plusieurs personnes au niveau des Luizes qui ont été décapitées, notamment des chefs coutumiers. J'ai du mal à pouvoir concevoir qu'effectivement, les humains face à d'autres humains. Déjà, on vient de parler ici de la Belgique par rapport au génocide. Mais entre nous, que ça se passe, sincèrement, ça dépasse l'entendement. Donc, il est recommandé que les gouvernements aujourd'hui des Bruno Tshibala prennent aussi les dispositions requises parce que le chef de l'État nous a donné des instructions précises à l'époque de la conférence. Il a dit qu'il faut que la justice passe. Mais dès qu'on verra qu'effectivement, on a mis en mouvement cette justice dans cet espace kasaïen, peut-être que les velléités de reprendre ces types de comportements seront éteintes. Donc, ces vérités seront éteintes. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment une démonstration qu'effectivement, il se passe des choses de ce côté-là. Donc, j'appelle.
Et la situation humanitaire est catastrophique dans la région du Kasaï.
C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé en termes d'exaction de cette milice, parce que nous vivons globalement des champs, de la culture, de l'agriculture, vous savez très bien que ça a des saisons. Alors, si vous passez 6 mois, 7 mois, 8 mois sans défricher les champs et cultiver tout ça, vous ne pouvez pas espérer grand-chose en termes de nourriture. Donc, on a cette situation-là qui est calamiteuse, mais je pense qu'il a aussi, c'est le gouvernement à la fois provincial qui est central, d'intervenir tel que avait indiqué les chefs de l'État. Mais malheureusement, il y a une série de personnes qui ne font pas leur travail. Là-dessus aussi, on doit se retourner vers nous-mêmes pour voir qu'effectivement, qu'est-ce qu'on doit faire entreprendre assez rapidement, parce qu'on ne peut pas stopper les processus pour aller aux élections et en les motivant par des contournements de cette nature-là. On doit y aller, il faut garantir à la population d'être en sécurité, il faut faire en sorte qu'ils puissent accéder à la nourriture, de sorte à ce qu'ils soient dans une santé permettant d'aller de finaliser ces processus.
Maître Guillaume Mandjolo, je rappelle que vous êtes diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale, écrivain essayiste en philosophie politique, également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti de la majorité présidentielle. Merci d'être passé à grande interview.
Merci à vous.
Grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Réalisation Michel Kifinda, assisté de Donna Madimba. Mise en onde de Willem Lungamba. Supervision Tina Salama. Présentation Alain Hirung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.